les podcasts de Radio Vatican.
Les mineurs étrangers non accompagnés sont en danger. C'est ce que révèle un rapport de l'UNICEF, publié le 18 mai 2017. Dans ce rapport, l'UNICEF dénonce les conditions de vie précaires des enfants migrants à travers le monde. Son principal objectif est d'alerter les dirigeants du sommet du G7 qui a lieu le 26 mai 2017 à Taormina en Sicile. Selon ce rapport, le nombre de ces mineurs étrangers non accompagnés présents sur les routes migratoires a été multiplié par 5 depuis 2010, ce qui représente 300 000 enfants enregistrés dans 80 pays, contre 66 000 en 2010 et 2011. La multiplication des conflits à travers le monde explique en partie cette augmentation. La tenue de ce sommet du G7 en Italie suscite un espoir pour les ONG, puisque le Parlement italien est le premier en Europe à avoir adopté le 29 mars 2017 une loi protégeant les mineurs migrants sur son territoire. Sébastien Lyon, directeur général d'UNICEF France, fait part de ses attentes et de ses espoirs quant à la tenue de ce sommet du G7.
La première chose qu'on aimerait voir apparaître dans les résolutions du G7, c'est que les différents États s'engagent à accorder à tous les enfants qui se trouvent sur leur sol ou qui arrivent sur leur sol une protection qui leur est due de par la signature de textes internationaux, comme par exemple la Convention internationale des droits de l'enfant. Quand on dit protection, c'est évidemment mise à l'abri des passeurs. On sait que là où il y a des zones grises et là où il y a de la clandestinité, c'est un terreau propice pour les passeurs qui font des ravages. Il n'y a pas d'autre mot. On a documenté de très nombreux cas de traite des enfants, de trafic d'enfants, d'exploitation, de prostitution forcée. Et donc on veut vraiment insister sur cet aspect protection des enfants pour éradiquer ce système de passeurs qui est un grand danger pour tous les enfants aujourd'hui.
Donc ça, effectivement, c'est déjà un premier élément, la protection. Mais plus concrètement, qu'est-ce que chaque État qui, justement, accueille de jeunes immigrés peut mettre en œuvre plus personnellement, par exemple ?
Alors, il y a une série de mesures, en fait, qu'on veut promouvoir à travers ce rapport. La protection, c'est un peu le chapeau, je dirais, de tout ce qu'on propose de faire. Pour être plus spécifique, il y a des États qui emprisonnent des enfants. C'est-à-dire qu'il y a on a un certain nombre d'États dans lesquels il y a des centres de détention où sont emprisonnés de manière temporaire ou parfois définitive, d'ailleurs, des migrants, des réfugiés. Et certains d'entre eux sont des enfants. Donc, il faudra rappeler qu'un enfant, sa place n'est pas en prison et qu'il y a des besoins spécifiques pour les enfants qui font qu'ils ne doivent pas être détenus. Donc, ça, c'est la première demande. La deuxième demande qu'on fait à ces différents États, c'est de maintenir les familles ensemble. Il y a encore un certain nombre de pays qui séparent les familles quand elles arrivent dans un pays en mettant les enfants d'un côté, les parents de l'autre. On pourrait rappeler que la meilleure chance pour un enfant de s'en sortir dans une migration difficile, c'est de rester avec ses parents. Ça, c'est une deuxième demande. Troisième demande, c'est de s'assurer que malgré le parcours migratoire, les enfants continuent à avoir accès à des services sociaux de qualité, comme rester à l'école quand c'est possible, et effectivement accès à des soins de santé. On sait que éducation et santé, c'est les deux besoins essentiels pour des enfants. Et aujourd'hui, on constate que malheureusement, dans beaucoup de pays, c'est très difficile pour un certain nombre d'enfants seuls migrants d'avoir accès à des soins et d'une part et avoir accès à l'éducation d'autre part. Et puis plus généralement, et ça c'est quelque chose qu'on appelle de nos voeux, c'est un vrai changement de mentalité de la part d'un certain nombre de pays qui considèrent que la migration est un danger et que les enfants en particulier représentent un danger alors que, comme le rappelle notre campagne, un enfant est un enfant avant tout.
Et donc, pour citer donc un exemple, le Parlement italien, le 29 mars 2017, a adopté une loi protégeant les mineurs, justement, les mineurs étrangers non accompagnés. C'est une première au niveau européen. Cette loi instaure, entre autres, de nouvelles procédures d'identification, veille au placement de ces enfants en centre d'accueil spécifique ou en famille d'accueil, ou encore promeut l'accès aux soins et à l'éducation. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette loi ? Et est-ce que vous pensez que justement une telle loi pourrait servir d'exemple aux grands dirigeants européens ?
Alors déjà, on accueille très favorablement cette loi et on s'en réjouit. Et moi, je voudrais féliciter mes collègues de l'UNICEF en Italie qui ont beaucoup travaillé avec le gouvernement italien pour que cette loi arrive et soit votée. Vraiment saluer le rôle pionnier de l'Italie dans le fait de protéger les enfants qui arrivent sur son sol sans avoir une quelconque appréciation sur leur statut migratoire. C'est une loi qui est inconditionnelle, qui offre des services et une protection de manière inconditionnelle. Donc c'est un excellent exemple de ce qui est possible, de ce qui est réalisable par les différents gouvernements. Nous, on voit comme un symbole que ce G7 soit hébergé par l'Italie et on espère vraiment que l'exemple italien de cette loi qui a été passée il y a quelques semaines sera un exemple pour les travaux du G7 et qu'elle inspirera les autres gouvernements. Et on pense aussi d'ailleurs que cette loi pourrait être la base d'une protection des enfants au niveau européen. Donc on appelle de nos voeux le fait que cette loi, qui est aujourd'hui juste dans le contexte national italien, soit répercutée dans une directive européenne.
Et donc justement, si aucune mesure n'est mise en œuvre au niveau européen dans un premier temps ou même au niveau mondial, est-ce que vous pourriez justement brièvement nous rappeler les risques si on n'est rien en œuvre ?
Pour être peut-être un petit peu plus spécifique, les parcours des enfants sont tous différents. C'est-à-dire qu'on a interviewé un certain nombre de ces mineurs qui entreprennent le chemin de la migration. Et c'est vrai que quand on parle avec certains d'entre eux, on se rend compte que les dangers auxquels ils sont confrontés sont quasiment inimaginables. Il y a l'aspect monétaire du problème, c'est-à-dire que beaucoup d'enfants sont obligés de payer très cher les passages. Pour certains d'entre eux, ils sont mandatés par leur famille ou leur communauté, donc il y a un paiement qui a été fait par la famille au démarrage, au passeur. Et donc le chemin se passe globalement bien, puisque le passeur a été payé en amont, et donc il accomplit sa mission d'emmener le jeune ou le mineur à son terme. Et puis pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'ils partent un peu comme ils peuvent, avec très peu de moyens et de fonds, et donc ils se retrouvent avec un trajet très très long. On a rencontré des jeunes qui ont mis, pour arriver par exemple, des jeunes qui voulaient aller en Grande-Bretagne et qui partaient d'Afghanistan. On les a rencontrés à Calais par exemple, et ils ont mis 2 ans pour arriver à Calais, parce qu'ils se sont retrouvés emprisonnés en Turquie, obligés de travailler pendant 6 mois en Grèce dans des conditions frôlant l'inhumanité, etc. etc. Donc le passage de chaque frontière est une difficulté. Plus les frontières sont fermées, plus le commerce des passeurs est florissant. Ça, il faut le répéter, la fermeture des frontières, c'est une solution qui est très défavorable aux enfants, parce que vous vous retrouvez avec des mineurs qui sont bloqués dans des endroits très peu accueillants, dans des pays qui n'ont pas spécialement de mesures en place et qui n'ont pas forcément les capacités pour accueillir ces enfants. Et donc vous avez des populations qui aujourd'hui sont bloquées dans plein de pays dans le monde. La Libye est un exemple, mais en Europe, il y a aussi un certain nombre de pays où des enfants sont bloqués et ne peuvent pas continuer leur parcours. Et c'est dans ces zones de blocage que fleurissent les trafics et les réseaux de passeurs.